Et l'homme finira par où il aura cru vivre.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Né de la révolution du machinisme, le progrès technique modifie la condition ouvrière d'une manière telle qu'on peut prévoir que la vie d'un travailleur, d'ici quelques décades, n'aura plus rien de commun avec celle des hommes d'aujourd'hui. Comment travaillera-t-on en l'an 2000 ? C'est la question que nous posons ce soir, non pas à des romanciers d'anticipation, mais à des économistes, à des ingénieurs, à des savants.
Je demande simplement si on ne pourrait pas tout de suite et très rapidement orienter le débat sur, je dirais, un petit côté prédiction, un petit côté wellsien par certains aspects, d'autre côté une extrapolation de la situation actuelle ou des situations immédiatement précédentes à la nôtre, mais véritablement voir ce que sont les ouvriers dans 20 ans, dans 30 ans ou même dans 50 ans.
Bien, nous vous écoutons.
Même si Georges,
s'il y a des ouvriers.
Oui, Georges Friedman.
Eh bien, on constate que quantité de tâches qui naguère étaient globales sont maintenant parcellaires. Il s'est produit un éclatement des métiers considérable. Il y a une multiplication des manœuvres dans des dizaines de milliers et des centaines de milliers d'usines du globe. Par conséquent, on peut prévoir que cette atomisation va continuer.
Mais pulvérisation.
Si vous voulez, pulvérisation des tâches globales, mais toutes les tâches ne peuvent pas être automatisées et sans doute ne le seront pas, la barre ne sera peut-être pas d'accord avec moi, parce qu'il n'est pas du tout dit que même dans 50 ans, le système nerveux de l'homme soit partout remplaçable par la cellule photoélectrique ou par ses succès d'années. Par conséquent, il y aura encore, n'est-ce pas, quantité d'ouvriers astreints à ce genre de tâches. Et d'autre part, il faudra également construire ces magnifiques machines qui permettent précisément la production automatique. Et bien voilà, déjà une ligne de force et j'aimerais savoir ce que mes aimables contradicteurs en pensent.
Noël Poudron.
Le travail, le chômage, la production, le rapport entre le capital et le travail, l'intérêt que le capital peut avoir à conserver un certain volant de chômage, comme on disait, le chômage évidemment est la grande préoccupation. Voilà comment on en parlait en 1967.
Une des questions qui semble préoccuper d'ailleurs le plus les Français, c'est la question de l'emploi. Vous avez posé la question suivante, est-ce que le problème du chômage sera résolu dans les années à venir ? Et les Français ont répondu non à 72%. Monsieur Fourastier, des réflexions sur ce pourcentage élevé quand même.
Et bien sûr, seulement ces inquiétudes-là me paraissent tout à fait légitimes, n'est-ce pas ? Malheureusement, nous ne sommes pas du tout en mesure d'affirmer que le problème du chômage sera réellement résolu d'ici l'an 2000. Certainement, on peut faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui, mais ça n'est pas sûr que l'on puisse faire la perfection, c'est-à-dire annuler complètement le chômage. La machine économique est d'une complexité dramatique, si je puis dire, et on ne peut pas garantir que d'ici 30 ans, on aura parfaitement régularisé l'emploi et écarté le chômage.
1975. Il me semble que la civilisation vers laquelle nous allons, c'est fondamentalement la civilisation du temps libre. La notion de temps libre, c'est ce qui n'est pas occupé très rigoureusement à la vie professionnelle, c'est-à-dire à l'acquisition de moyens de paiement et d'échange indispensables dans une société capitaliste. Je crois qu'il faut bien se dire que la ville de demain sera une ville habitée par des personnes qui auront 17-18 heures de liberté par jour et qu'il faut réfléchir à l'art et la manière d'organiser, en tout cas mettre à leur disposition les moyens de se réaliser, de s'épanouir, de vivre ces 17 ou ces 18 heures de temps libre.
1984.
L'usine de demain sera un prolongement des ateliers flexibles.
Lorsque les robots auront véritablement la vue et le toucher, ils pourront choisir leurs pièces.